Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. Au sommaire, deux morts et des dizaines de blessés lors de la publication des résultats de l'examen d'État à Kisangani. Ces drames font suite à des accidents de circulation lors des manifestations de liesse de lauréats hier mardi sur la voie publique. La fréquence globale de la violence toujours en hausse dans les camps de déplacés autour de Goma. Ceci ressort de l'enquête réalisée par MSF dans quatre camps entre mi-novembre 2023 et avril 2024. Notre invité est Médar Elonge Konga, administrateur du territoire d'Opala dans la province de la Tchopo. En séjour à Kisangani dans le cadre de la célébration du Jeune Ocost, il revient sur les défis auxquels son entité fait face. Bonsoir à toutes et à tous. Province de la Tchopo, deux personnes décédées lors de manifestations de liesse après la publication des résultats de l'examen d'État à Kisangani. Il s'agit d'une lauréate qui a perdu la vie ce mardi dans un accident de circulation et un jeune homme tué lundi dans la soirée par machette par un groupe en colère suite à l'échec d'un des leurs. Une dizaine de lauréats ont été grièvement blessés dans divers incidents. Les points avec Jacques Moukonkolé.
Les lauréats des examens d'État s'adonnent à la folie sur la voie publique. Ils circulent à 4 ou 5 sur une même moto et roulent à vive allure, ne s'inquiétant de rien. Hier, une lauréate a perdu la vie après la collision de deux motos au centre-ville. 3 de ses camarades sont grièvement blessés. Lundi dernier, dans les heures nocturnes, un jeune homme a succombé à ses blessures dans la commune de Kisangani après avoir reçu des coups de machette de la part des jeunes en colère suite à l'échec de leurs camarades. Face à ces débordements, le coordonnateur du Congo en image, une organisation de défense des droits de l'homme, Copens Lusuna, interpelle à la fois les parents et les forces de l'ordre pour que chaque parti prenne ses responsabilités en main.
La meilleure des choses, c'est que nous, les parents, nous puissions comprendre que lorsque un enfant a présenté que Dieu a fait qu'il puisse réussir, autant que vous puissiez discipliner cet enfant, lui demander de rester à la maison et d'éviter tous ces genres d'incidents-là. À mon humble avis, je pense qu'il faudrait peut-être faire appel aux forces de l'ordre pour que la police puisse investir peut-être tous les artères afin que ces élèves-là récalcitrants ne puissent pas faire ce qu'ils ont fait. Parce que ça a des conséquences.
Rappelons que la veille de la publication des résultats des examens d'État, le maire de la ville de Lilikoundé a interdit des manifestations et autres scènes de liesse exagérées des lauréats de ces épreuves. Il a en même temps appelé ces derniers à la discipline. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Au Congo central, la ville de Boma n'a pas d'eau de la régie des eaux depuis dimanche. À cause de ces manques d'eau, la ville a enregistré hier un mort par noyade. Cette situation est consécutive à l'interruption de la fourniture électrique à Boma et dans l'ex-district du Bas-Fleuve causée par l'écroulement de le même dimanche d'un pylône sur les parcours du réseau électrique au niveau de la cité de Kinzamvwete. D'après les directeurs provinciaux de la régie des eaux, cette situation compromet les fonctionnements normaux de son entreprise au niveau des Boma. Théodore Kabeyangandou, qui affirme avoir mis en place un générateur pour pallier à ses manques d'électricité, indique cependant qu'en raison de la faible puissance de ces générateurs, seules les zones basses sont desservies durant 5 heures par jour. En attendant le rétablissement de l'électricité, les directeurs de la régie de distribution d'eau demandent à la population de la ville des Boma de se rapprocher de ces quartiers desservis en lieu et place d'aller s'approvisionner au fleuve avec tous les risques des noyades et des maladies hydriques. Théodore Kabeyangandou, directeur provincial de la régie des eaux Congo central, est dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Avec le manque d'électricité, nous aussi, on ne s'est pas tourné à 100% pour donner l'eau à la population. Nous avons un groupe électrogène de 150 kVA. C'est une puissance, bien sûr, très limitée que nous utilisons pendant 5 heures par jour pour pouvoir donner de l'eau là où on peut orienter. Parce que la puissance de ce groupe-là ne peut pas faire tourner les machines de haute pression qui sont faites pour alimenter le réservoir de Kisantou, qui est surélevé. Comme ça que l'eau est donnée à des endroits où la pompe permet qu'on arrive, parce qu'on est obligé de fonctionner avec une seule machine au captage et une seule machine au refoulement. C'est ainsi que en présentant des excuses à tous nos abonnés pour ce désagrément qui est indépendant de notre bonne volonté. Nous demandons quand même à ceux qui sont plus haut élevés de se rapprocher de là où il y a de l'eau pour éviter que les gens aillent vers le fleuve, mais il y a de l'eau qui arrive dans les quartiers les plus bas là, pour pouvoir s'approvisionner à nous en attendant qu'une solution définitive soit trouvée par la reprise avec l'énergie de notre société sœur.
Au Kasaï oriental, l'aéroport international de Bipemba à Mbujimayi sera fermé pendant 3 jours de la semaine et cela durant 2 mois et demi. Cette annonce a été faite ce mardi sur la RTNC Mbujimayi par les commandants de la régie des voies aériennes RVA Kasaï oriental. Romain Tinyamakabongo justifie cette décision qui entre en vigueur le 19 août par l'accélération des travaux à effectuer sur la piste aéroportuaire. Écoutons à ce sujet Romain Tinyama, commandant de la RVA Kasaï Oriental.
Pour attaquer la piste, ça va demander, n'est-ce pas, qu'il y ait des jours de fermeture de l'aéroport et des jours d'ouverture. Ce qui veut dire que nous allons passer d'ici le 19 août à la fermeture de l'aéroport pendant 4 jours. Ce qui veut dire du lundi au jeudi et on va ouvrir du vendredi au dimanche. Ce qui veut dire qu'on va opérer pendant 3 jours et fermer pendant 4 jours. Nous allons aller de cette façon-là pendant au moins 2 mois et demi jusqu'à couvrir la partie de la piste actuelle. Ces travaux consistent à donner à l'aéroport de Mbujimayi Bipemba, qui est actuellement aéroport international de Mbujimayi, donner une nouvelle piste. Pas une nouvelle piste ailleurs, mais sur la même piste. C'est-à-dire, nous enlevons tout ce qu'il y a dessus et on remet du neuf. Donc pendant 2 mois et demi, il faudrait s'habituer à voir l'aéroport ouvert du vendredi au dimanche et fermé du lundi au jeudi. Mais ce que je peux ajouter, c'est qu'il y aura une fermeture initiale d'ici le 10 août. On va fermer pour une journée, c'est un samedi, et réouvrir immédiatement le dimanche ou lundi.
Ici à Kinshasa, le ministre provincial de Transport et la Mobilité s'engage à endiguer les embouteillages dans la ville et améliorer la mobilité des populations de la capitale. Nous allons être responsables de nos actes. Nous disons aux Kinois que le travail commence, s'est exprimé Bob Amisso à l'occasion de la prise de ses fonctions ce mercredi. Il s'est dit préoccupé par de la situation dégradante que connaît son secteur, de l'immensité des défis à relever et promet d'instaurer la discipline dans les secteur des transports à Kinshasa. C'est depuis hier mardi que les membres du gouvernement provincial procèdent à la remise et reprise avec leurs collègues sortants. Au Nord Kivu, la fréquence globale de la violence est toujours élevée dans les camps de déplacés autour de Goma. La principale forme de violence demeure la violence sexuelle. Les violences physiques et psychologiques sont également fréquemment signalées. C'est ce qu'indique le nouveau rapport de l'enquête réalisée par MSF dans 4 camps entre mi-novembre 2023 et avril 2024. Cette enquête a été réalisée auprès des ménages des personnes déplacées vivant dans 4 camps abritant plus de 5 000 personnes à l'ouest de la ville de Goma. Denise Loukesso nous fait le condensé de ces rapports.
Parmi les femmes adultes de 20 à 44 ans, plus de 10% ont déclaré avoir été violées au cours des 5 mois précédant l'enquête. Le résultat de cette enquête concorde avec le nombre extrêmement élevé des cas de violences sexuelles traités par les équipes médicales de MSF dans les différents sites de déplacés autour de Goma, dit les rapports. Cette année encore, les survivantes des violences sexuelles racontent être agressées par des hommes souvent armés dans les forêts et les champs où elles doivent se rendre pour la collecte des bois de chauffe ou des nourritures dont elles ont besoin pour nourrir leur famille. Elles font aussi état de nombreuses violences quotidiennes commises à l'intérieur des camps. Leur précarité ainsi que celle de leur abri des fortunes les rendent particulièrement vulnérables à ce type d'actes, dit Camille Niel, coordinatrice d'urgence pour MSF à Goma. MSF réitère sa demande aux autorités, celle de garantir la sécurité des sites des déplacés pour mieux protéger les femmes et les enfants en particulier. L'ONG demande également aux acteurs de l'aide humanitaire de renforcer l'assistance alimentaire, l'accès à des activités génératrices des revenus et à des abris sécurisés sur les sites. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, l'enclave des pêches de Nyakakoma en territoire de Rutshuru passe à son tour sous occupation des rebelles du M23. C'était dans la matinée de ce mercredi après un échange de tirs de courte durée contre la force marine congolaise soutenue par des combattants des groupes armés locaux. Des sources sur place déplorent l'occupation de ces villages qui est quasiment les derniers du groupement des Binza et du territoire de Rutshuru. Bernard Nyangi.
C'est autour de 9h locales que les rebelles du M23 sont venus du poste frontalier d'Ishishasha d'Investignacacoma. Selon certains habitants qui sont restés terrés chez eux, les charges de tir opposant les rebelles aux quelques éléments de la force navale et les Maï Maï qui étaient encore à Nyakacoma n'auraient duré qu'une trentaine de minutes environ. Cette pêcherie placée par l'ICSN sous la gestion du chef de la chefferie de Bouicha est quasiment le tout dernier village du territoire de Rutshuru à être désormais occupé entièrement par les rebelles du M23. Cela à l'issue d'une série d'attaques menées depuis le 2 août dernier par les rebelles depuis Nkwenda Kisegourou en passant par Nyamilima et Ishasha. Ces attaques interviennent alors qu'entrée en vigueur le 4 août l'accord de cessez-le-feu conclu le 30 juillet dernier entre Kinshasa et Kigali à Luanda. Un cessez-le-feu rejeté par la rébellion du 23 pour n'avoir pas été associé au pourparler de Luanda. L'occupation de Nyakacoma permet à présent à cette rébellion soutenue par le Rwanda de contrôler les côtes sud et est du lac Édouard avec un accès de navigation ouvert vers le grand nord de la province. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution autorisant la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, à fournir un soutien opérationnel et logistique à la mission de paix de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, SAMI-RDC. Cette mission, composée des soldats d'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi, est déployée au Nord Kivu depuis décembre 2023, une région touchée par l'activisme de plusieurs groupes armés, notamment la rébellion du M23. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Le texte présenté par la France et la Sierra Leone a été adopté à l'unanimité des 15 membres du Conseil. La résolution autorise la MONUSCO à renforcer la coordination, l'échange d'informations et l'assistance technique avec la SAMI-RDC en permettant à cette dernière de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la mission de l'ONU dans la zone de déploiement de celle-ci. Le soutien de la MONUSCO inclura des conseils techniques sur la protection des civils, la prévention de la violence sexuelle liée au conflit, la protection de l'enfance, la prévention des dommages causés aux civils, la coordination civilo-militaire, le désarmement et la gestion des armes et des munitions. Le Conseil de sécurité a insisté sur la nécessité pour les pays fournissant des contingents à la SAMI-RDC et au commandant de la force de la MONUSCO de prendre des mesures concrètes pour réduire au minimum les risques pour les civils dans toutes les zones d'opération. Le Conseil de sécurité a également exprimé sa préoccupation face à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC, exacerba la crise humanitaire et les tensions avec les Rwandais. Le Conseil s'est toutefois félicité de l'accord de cessez-le-feu signé par la RDC et les Rwandais avec la médiation de l'Angola et appelle à une cessation durable des hostilités. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et puis, les coordonnateurs humanitaires résidents du système des Nations Unies en RDC et chef ad intérim de la MONUSCO séjournent à Lubumbashi depuis ce mercredi. Avant de se rendre à Kolwezi dans les Lualaba, Bruno Lemarquis va mener plusieurs activités. Mais déjà, il affirme que les Haut-Katanga et les Lualaba sont des provinces calmes qui n'ont pas trop de besoins humanitaires. Bruno Lemarquis est au micro de Jean Gandou.
Bon, c'est ma première visite ici dans le Haut-Katanga et puis on va aussi aller au Lualaba, donc c'est une petite bouche et des grandes oreilles. C'est surtout pour apprendre, écouter, comprendre les réalités de ces provinces je n'ai pas encore visité, rencontrer les collègues des Nations Unies, rencontrer les autorités et puis je pense qu'on fera un petit débriefing à la presse à la fin de la mission.
Et sur le plan humanitaire, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ?
Ah, je pense pas que... Bon, les collègues vont me renseigner, mais je pense pas qu'il y ait trop de besoins humanitaires dans la province. Ce sont des provinces assez calmes. Les grands besoins humanitaires sur lesquels on se concentre, heureusement d'ailleurs, les besoins humanitaires sur lesquels on se concentre, c'est vraiment dans les provinces de l'Est, le Maïdombé, mais Haut-Katanga, Lualaba, c'est surtout les potentialités de développement sur lesquelles il faut travailler.
Justice, un bâtonnier du Kouilou devant la barre comme prévenu au procès de la force du progrès de l'UDPS. Les ministères publics reprochent au bâtonnier Laurent Kalengi d'avoir été en contact avec le membre de cette force dans le cadre de l'opération des déguerpissements des occupants de l'immeuble situé sur l'avenue Ouvira. Selon son avocat, celui-ci n'a agi qu'au nom et pour les comptes de son client. Son péché, dit-il, c'est d'avoir été l'avocat de la société commerciale New Development qui a gagné nier les jugements de ces déguerpissements. Maître Serge Mayamba explique ici le fait de la cause au micro des maîtres de Jeff Ngoy.
On reproche au bâtonnier Kalenghi d'avoir accompli, enfin on le responsabilise dans des actes qu'il n'a pas accomplis. Parce que comme vous le savez, le déguerpissement dont on parle a été le fait d'un officier ministériel, en l'espèce l'huissier de justice, qui a eu à agir conformément à la loi. Donc il s'agit là d'un précédent malheureux, parce que si l'avocat doit être poursuivi parce qu'il a agi conformément à la loi, c'est-à-dire permettre à ce que les moyens de son client atteignent un huissier de justice, par exemple, et que ce dernier agisse conformément à la mission qu'il a reçue de la loi, alors là, on entrerait dans un autre état que celui dans lequel il y a primauté du droit sur l'arbitraire.
Parlons toujours de ces procès contre la force du progrès de l'UDPS pour cette fois-ci signaler l'ouverture d'une enquête pour appréhender un des avocats des prévenus dans ces procès, Maître Joël Kitenge Dimanja. Dans un communiqué du ministre de la Justice du 6 août, Constant Mutamba instruit les parquets d'engager des poursuites à son encontre pour avoir propagé des propos désobligeants envers les commissaires provinciaux de la police, ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Selon le ministre, il s'agit là d'un acte de défi contre l'autorité de l'État et contre une institution établie. L'avocat des membres de la force du progrès qui avait menacé le général Blaise Kilimbalimba est vu dans une vidéo devenue virale en train de demander pardon tout en étant incarcéré dans une cellule.
Actualité internationale.
Au Soudan, la directrice des opérations et du plaidoyer du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, Edem Wassornu, a condamné mardi les blocages de l'aide destinée aux populations du nord Darfour. Dans cette partie de ces pays, de nombreux enfants sont menacés de mort par la malnutrition, selon l'ONU. Les enfants sous-alimentés d'un camp pour personnes déplacées par la guerre dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, sont en danger de mort, selon un groupe d'aide, parce qu'il a été contraint de rationner les traitements de la malnutrition en raison d'un blocus imposé par un groupe paramilitaire tristement célèbre.
L'invité.
Notre invité est Médard Elongé Konga, administrateur du territoire d'Opala dans la province de la Tchopo. Il a séjourné dernièrement à Kisangani dans le cadre de la célébration du deuxième anniversaire du génocide. Une occasion de rencontrer ses collègues d'autres territoires, certaines autorités du gouvernement central, dont leur ministre des tutelles, les ministres de l'Intérieur. Quels sont les problèmes qu'ils lui ont soumis et quelle a été sa réaction? Médard Elongé Konga s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Médard Elongé Konga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes l'administrateur du territoire d'Opala. Vous séjournez à Kisangani dans le cadre de la célébration du deuxième anniversaire du génocide. En marge de ces activités, vous avez rencontré certains ministres, et notamment le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Quels sont les problèmes que vous lui avez posés?
Nous avions posé les problèmes de fonctionnement de nos entités. Vous comprendrez que le territoire comme entité, c'est une entité qui vit dans la déconcentration. Nous n'avons pas de budget et nous n'avons pas jusque-là de frais de fonctionnement. On n'a pas encore eu les frais d'itinérance. C'est en ces temps-là, quand il nous a reçus, nous avons posé le problème. Non seulement cela, mais également le problème de nos salaires. Nous sommes agents de l'État et nous avons nos numéros matricules, mais jusque-là, on n'est pas encore payé. Et nous avons parlé au nom de tous les administrateurs des territoires de la République démocratique du Congo.
Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas payé?
Bon, non, c'est déjà c'est une année et quelques mois, hein, c'est une année.
Comment vous vivez, comment vous faites fonctionner vos institutions?
Nous fonctionnons très difficilement, mais c'est vrai que à un moment donné, on est appelé à manager. On est appelé à voir comment toucher ça et là pour quand même arriver à trouver solution à un moment donné. Mais c'est toujours pénible. Pénible parce que nous avons une grande responsabilité, mais qui nécessite quand même la motivation ou alors l'appui du gouvernement. Malheureusement, peut-être avec les temps que nous avons eus à parler avec les ministres, Et c'est en ce moment-là qu'on pourrait trouver solution à nos problèmes.
Alors, quelle a été sa réaction, sa réponse? Est-ce qu'il vous a donné des assurances pour votre paiement, pour essayer d'alléger votre tâche à l'intérieur?
Oui, le VPM de l'intérieur nous a rassurés. Et d'ailleurs, il était très détendu. Il nous a écoutés vraiment à toute oreille. Et il a promis que d'ici là, le gouvernement se déploie ou alors pour trouver solution aux problèmes des administrateurs des territoires. Et donc, tout était bien passé. Et d'ici là, on va trouver solution à nos problèmes.
Et parlons sécurité dans le territoire d'Opala. Les conflits Mbole-Lengola a été ressenti à Opala. Il y a eu certainement des répercussions dans votre entité.
Bon, le territoire d'Opala a connu les hauts et les bas parce que les étincelles de ces difficultés sont entrées jusqu'à Opala. Et cela a engendré la naissance même de beaucoup d'inciviques. Alors ces inciviques-là sont en train de gêner un peu la quiétude sociale. C'est comme cela que nous on a même posé le problème est au gouverneur de province pour que l'on puisse quand même trouver solution par rapport à cet incivisme qui bat record dans les territoires d'Opala. Rappelez-vous, même les sous-préfets d'Opala 2 qui a été molesté comme un chien par les inciviques. Heureusement, Dieu l'a protégé. Donc, nous avons également besoin de concours des autorités militaires et policières parce que on ne peut pas laisser cet incivisme monter à flèche.
Parlons agriculture. Le territoire d'Opala, c'est une entité essentiellement agricole. Comment se porte l'agriculture chez vous?
Opala, c'est le grenier agricole de la Tchopo. Je dois vous affirmer que j'ai une population qui se donne à l'agriculture. La grande quantité de riz que vous consommez ici à Kisangani, ça vient d'Opala. C'est comme cela que nous interpellons que les associations, ceux-là qui peuvent venir investir à Opala. Donc, les deux bras de monsieur l'administrateur du territoire sont ouverts pour les accueillir, pourvu qu'ils passent par le gouvernorat pour se faire annoncer. Donc, j'attends tout le monde.
Il y a un problème de route qui se pose.
Nous sommes vraiment enclavés. La route est pratiquement comme telle, c'est déjà à 90% de délabrement.
Comment peut-on évacuer le riz d'Opala vers ou pour Kisangani?
Bon, pour Kisangani, le riz d'Opala est évacué par les canal par le biais de baleinières.
Alors, quelle est la solution idéale pour acheminer ces produits agricoles en toute sécurité?
La solution idéale, c'est de procéder à la réhabilitation de la route nationale qui va de Kisangani à Opala jusqu'à Ikela, parce que je fais limite avec Ikela.
Médard Elongé Konga, administrateur du territoire d'Opala, merci.
C'est moi qui vous dis merci, monsieur le journaliste.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session d'information sur Radio Kapi, mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, sous la supervision et coordination de Pele Kipela Mondo et Jude Bilandan Kumar. Je suis Patience Ngalula Mbombo à la présentation. Merci à vous tous de votre sympathique attention.